vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Et nous lirons quelques versets au chapitre 3. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Et nous lirons les versets 14 à 21. Éphésiens 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur et la longueur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est le premier dimanche du mois et nous avons ce matin notre prédication sur la doctrine biblique. Et le thème qu'il me revient de traiter avec vous ce matin, c'est Dieu comme Père. Dieu comme Père. C'est un thème très vaste et pour l'étudier de façon complète et aussi équilibrée, il faudrait par exemple regardez les textes qui, dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, nous parlent de Dieu comme d'un Père. On s'apercevrait alors que les textes qui nous parlent de Dieu comme Père dans l'Ancien Testament sont assez peu nombreux. Par contre, dans le Nouveau Testament, il faudrait là aussi regarder tous les textes qui nous parlent de Dieu comme Père, les textes sont là plus nombreux, dans les Évangiles par exemple. Jésus et son Père, la relation entre Jésus et son Père n'est pas une relation nouvelle, mais elle était quand même peu utilisée. Le thème de Dieu comme Père dans le judaïsme du 1er siècle n'était pas un thème très répandu. Par contre, l'insistance que Jésus a eue sur cette relation particulière, cette relation d'intimité entre lui et son Père, ça c'était nouveau. Ça, c'était original. Et nous qui nous disons chrétiens et qui nous voulons suivre le Christ, nous sommes appelés, à la suite de Jésus-Christ, à appeler Dieu comme notre Père qui est aux cieux. C'est cela, la prière que Jésus a appris à ses disciples et que ses disciples nous ont transmis et que nous disons encore aujourd'hui, 20 siècles après la venue de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, Jésus dit par exemple ce verset que Philippe nous a rappelé vendredi soir lors de notre rencontre de prière ici. « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et on remarque dans plusieurs textes du Nouveau Testament que l'idée que Dieu est un Père est souvent en lien avec la prière. Parce qu'il y a là une relation particulière, une intimité, une proximité particulière. Et c'est aussi le cas dans notre passage d'Éphésiens chapitre 3 que nous allons méditer ce matin. C'est aussi un contexte où Paul prie pour les chrétiens de l'église d'Éphèse et il les encourage à prier Dieu comme leur Père. Vous avez peut-être remarqué que le texte que nous avons lu, Éphésiens 3, versets 14 à 21, commence par ces mots « c'est pourquoi ». Et en général, quand on commence un passage par ces mots « c'est pourquoi », c'est que ce passage continue ce qui a été dit juste avant. Et en fait, Paul, ici, au verset 14, reprend le fil de sa pensée qu'il a commencé au début du chapitre 3. Il dit au début du chapitre 3, « À cause de cela, ou c'est pourquoi, moi, Paul, qui suis prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens. » Et puis Paul arrête là son discours et fait un commentaire sur son expérience et sur les privilèges que Dieu lui a accordés par rapport à sa mission d'apôtre, et en particulier d'apôtre pour les non-juifs. Et au verset 2 et au verset 7, Paul nous dit que ces privilèges qui lui ont été accordés, ce sont des grâces de Dieu. Ce ne sont pas des choses que Paul a méritées lui-même. Dans sa grâce, Dieu permet à Paul d'avoir un rôle qui est un rôle clé dans l'œuvre de Dieu, qui est décrite dans les chapitres 1, 2 et 3 de cette lettre aux Éphésiens. Et quel est ce rôle clé? Quelle est l'œuvre que Dieu accomplit et dont Paul parle tout au début de cette lettre? Eh bien, c'est de la réconciliation des Juifs et des non-Juifs au sein d'un même peuple, sur la base du sacrifice que Jésus a opéré, sacrifice pour les péchés des hommes. Dieu se constitue un peuple qui est fait de Juifs et de non-Juifs, ceux qui auparavant pouvaient se considérer comme des ennemis. Et l'Église est ce peuple, ce corps, ou encore ce temple ou cette famille. Paul utilise plusieurs images, plusieurs métaphores. C'est l'Église qui est ce lieu de réconciliation, qui annonce la réconciliation finale et parfaite avec Dieu, notre Père, pour l'éternité. Voilà un petit peu le programme de cette épître de Paul aux Éphésiens. Et pour les versets qui nous intéressent ce matin, à partir du verset 14 du chapitre 3, nous sommes là à la fin de la première partie, cette partie plutôt théorique ou théologique, et ensuite Paul parlera des conséquences pratiques de ce Dieu qui est Père de cette nouvelle humanité, de cette Église. Et ici Paul, pour conclure cette première partie, prie, et il dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Alors ce matin, mon objectif, c'est de relever dans ce texte, je disais tout à l'heure que le thème de Dieu comme Père est assez vaste et nous n'aurons pas le temps de parcourir tous les textes qui en parlent ce matin. Nous allons rester centrés sur ce passage d'Éphésiens 3 et regarder quels sont les éléments qui nous parlent de Dieu comme d'un Père, pour ensuite tenter d'en mesurer les implications pour les lecteurs de Paul à l'époque et aussi pour nous aujourd'hui. Alors commençons par les premiers versets 14 à 16 où Paul décrit ce Dieu comme un Père. « Je fléchis les genoux », voilà comment il commence sa prière. Les Juifs priaient debout. Nous sommes peut-être souvent assis, il n'y a pas de position particulière pour laquelle la Bible nous demande de prier. Mais culturellement, les Juifs priaient debout. Si vous regardez par exemple les paraboles, la parabole de Luc 18, du péager et du pharisien qui prie, ils prient tous les deux debout, Dieu. Le fait de s'agenouiller devant Dieu est plutôt inhabituel et marque probablement l'idée d'un moment solennel, particulier. Si on s'agenouille, c'est que l'on veut montrer une attitude d'humilité, de respect particulier. Par exemple, dans le livre d'Esdras, au chapitre 9 et au verset 5, Esdras confesse ses péchés et parle aussi des péchés du peuple. Et dans ce moment particulier de confession, il est à genoux pour prier. Dans le Nouveau Testament, Jésus, dans Matthieu 26, verset 39, Jésus, dans le jardin de Gethsémané, est à genoux pour supplier le Père que cette mort à la croix s'éloigne de lui. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, dit Jésus à son Père. Et puis dans le livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 59, c'est Étienne qui se met à genoux pour prier pour ceux qui sont en train de le tuer, de le lapider. Père, ne leur tiens pas compte de ce péché. Et Étienne reprend la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible ne nous dit pas dans quelle position physique nous devons prier. Mais nous pouvons voir, avec cette exhortation de Paul et ces passages que je viens de citer, que nous pouvons trouver aussi avec notre corps la position qui convient dans la prière à notre état d'esprit, à ce que nous voulons aussi demander à notre Père. Prier à genoux ne rend pas notre prière plus efficace, mais elle peut manifester une humilité et un respect envers Dieu notre Père. Paul dit : je fléchis les genoux devant le Père. Et cela peut nous paraître étonnant. Si Dieu est notre Père, nous pouvons peut-être avoir envie de courir à sa rencontre, comme le fils prodigue dans la parabole de Luc 15. C'est d'ailleurs même le Père qui court à la rencontre de son fils. Le fils ne s'agenouille pas devant son Père. Mais Paul a déjà parlé dans cette lettre aux Éphésiens de Dieu comme Père. Tout au début de sa lettre, au premier chapitre et au verset 2, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Et il continue avec ses paroles de bénédiction au verset 3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et puis au chapitre 2, des versets qui vont peut-être vous rappeler quelques souvenirs, pour ceux qui étaient là au week-end d'église, Éphésiens 2, versets 18 et 19. « Par lui, nous avons reçu les uns les autres un même accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Au sein de l'Église, nous sommes membres de la même famille. Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est donc notre Père si nous sommes aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est donc notre frère. Et sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous sommes frères et sœurs dans la même famille, celle de notre Père céleste. Nous avons tous un même accès auprès de lui. C'est aussi ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3 et au verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. » Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul dit donc, dans ce verset 14, « Je fléchis les genoux, devant le Père, et aussi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille tire son nom. » Alors, les commentateurs ne sont pas tous d'accord pour traduire ces versets de la même manière. Comment comprendre toute famille ? Qu'est-ce que cela veut dire, cette expression ? Certains pensent que cela veut dire toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tous les peuples, toutes les cultures. Le problème, c'est que la formule est au singulier, toute famille au singulier. Et en plus, toutes les familles de la terre, au sens de tous les peuples, ne semblent pas vraiment cohérent avec ce que Paul est en train de dire, et qui concerne plutôt une seule et même famille, d'un seul et même père, c'est-à-dire la famille des croyants. Et puis, dans les versets qui suivent le passage que nous méditons ce matin, au chapitre 4 et au verset 6, Paul nous rappelle « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Et là, Paul parle de la famille des chrétiens, des croyants. La deuxième façon de comprendre cette formule « toute famille », c'est de dire « c'est toute la famille ». C'est la famille des croyants. Et Paul dit, Paul parle de ceux qui sont dans les cieux et de ceux qui sont sur la terre. Et donc s'il s'agit de toute la famille, ceux qui sont dans les cieux, ce sont les chrétiens qui sont déjà décédés. Et ceux qui sont sur la terre, eh bien au moment où Paul écrit cette lettre, ce sont les chrétiens vivants, dans les cieux et sur la terre. Je trouve que c'est une meilleure façon de comprendre. Il y en a une troisième qui est aussi intéressante. C'est de, au lieu de dire toute famille, c'est de traduire toute paternité. Et c'est pour essayer de rendre compte d'un jeu de mots qu'il y a dans le texte en grec entre le mot père, pater, et le mot famille, patria. Et donc, si cette traduction est exacte, on comprend alors que Dieu est le modèle de la paternité des hommes. Que tout père humain tire son autorité de Dieu le Père. Et c'est ainsi que traduit par exemple la Bible du Semeur. Le Père de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles. Vous voyez là, ils utilisent aussi le pluriel pour traduire de cette façon-là. C'est une façon de traduire qui est possible et qui essaye de rendre compte de ce lien entre Dieu Père et lien de filiation et lien de fraternité. Et Paul termine ses premiers versets en disant que Dieu est Père selon la richesse de sa gloire. Et c'est déjà une formule que Paul utilise au premier chapitre et au verset 18, « Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des chrétiens. » Paul ne doute pas un seul instant des ressources, des richesses de grâce dont le Père Céleste dispose et qu'il veut accorder à ses enfants. Résumons en quelques mots ce premier point. Paul parle de Dieu comme Père. Et il en parle, premièrement, avec humilité et respect. Il prend l'image de quelqu'un qui s'agenouille devant le Père. Deuxièmement, il dit que Dieu est un Père qui donne son nom à toute sa famille. Et donner son nom, c'est donner une marque d'appartenance aussi, comme un sceau. Troisièmement, Paul nous dit que Dieu, en tant que Père, est source de toute paternité et de toute autorité humaine. Quatrièmement, Paul nous dit que ce Dieu Père veut donner ses richesses à ses enfants. Et nous allons voir dans quelques instants quelles sont ces richesses dans ce texte. Mais avant cela, Je vous propose quelques pistes de réflexion à partir de ce premier point. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que cette description, disons-le comme ça, de Dieu comme Père, que nous venons de lire, est-ce que cette description correspond à l'image que vous vous faites de Dieu, du Père céleste? Quand nous disons « notre Père qui est aux cieux », à quoi est-ce que nous pensons? Quand nous pensons à Dieu comme Père, il peut se présenter pour nous un certain nombre d'images plus ou moins problématiques. Au lieu de nous avancer vers Dieu ou de nous adresser à Dieu comme un Père, avec humilité et avec respect, nous pouvons par exemple imaginer qu'il nous faut nous approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Il y a des pères humains qui sont des pères terribles et qu'il faut non seulement respecter, mais qu'il faut craindre, dont il faut craindre les foudres, un peu comme Zeus dans la mythologie grecque. Nos pères humains n'ont pas toujours été, ne sont pas toujours, ou pas souvent, un père comme Dieu est père. Nous pouvons aussi ne pas nous approcher de Dieu avec crainte et tremblement, mais avec un certain ressentiment, voire un certain rejet. Nous avons peut-être connu un père faible ou qui n'assumait pas ses responsabilités. Nous avons vu aussi dans ces paroles de Paul que Dieu donne son nom à ses enfants. Mais il y a des pères qui aujourd'hui ne donnent pas leur nom à leurs enfants. Peut-être n'avons-nous pas été reconnus par un père à notre naissance. Ou peut-être notre père nous a donné son nom, mais seulement son nom. Et par la suite, il ne s'est pas vraiment impliqué, il n'a pas assumé les conséquences de cette reconnaissance. Il ne s'est pas impliqué dans notre existence qu'il a pourtant reconnue. Nous avons vu aussi que Dieu est source de richesse pour ses enfants. Mais peut-être que notre Père humain avait plutôt tendance à garder ses richesses pour lui. Ou alors à nous réserver quelques miettes qu'il avait quand il avait le temps, c'est-à-dire jamais. Ou bien au contraire, peut-être que notre Père nous a comblés de richesses matérielles, mais plutôt pour acheter notre affection, notre amour, ou la reconnaissance de sa propre fonction paternelle. Ou peut-être notre Père ne nous a pas vraiment transmis les vraies valeurs de la vie, et cela nous manque aujourd'hui pour trouver des points de repère dans la vie. Eh bien, quand je relis ces versets, je me dis que Dieu nous invite à le chercher comme Père aussi parce qu'il n'est pas comme nos pères humains. Nous ne pouvons pas changer notre Père. Il est peut-être décédé, il est peut-être loin géographiquement, il est peut-être là physiquement, mais têtu. Nous ne pourrons pas changer nos pères. Mais par contre, avec ces versets, Dieu nous donne l'occasion de changer le regard que nous portons sur notre père humain, sur la paternité Et peut-être que si nous sommes hommes et pères aujourd'hui, nous avons des choses à méditer là. Et nous avons la possibilité de changer le regard que nous portons sur notre Père céleste. Dieu, comme Père, veut aussi être un modèle pour nous. Et peut-être que cela peut changer notre état d'esprit quand nous prions notre Père qui est aux cieux. Alors, on peut toujours dire, c'est la faute à mon Père si je suis comme ci ou comme ça. Et nos pères humains peuvent avoir effectivement certaines responsabilités. Et certaines de leurs paroles, de leurs gestes, de leurs actes peuvent avoir des conséquences encore aujourd'hui dans nos vies. La question c'est, qu'est-ce que nous en faisons? Et notre Père céleste veut et peut transformer notre relation au Père, en particulier à lui, Dieu le Père. Il veut transformer cette relation en une relation de confiance et d'amour. Je vous invite à relire dans les évangiles les passages où Jésus parle de son Père. Et le modèle de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, entre Jésus et son Père, peut aussi, pour nous aujourd'hui, être une source de bénédiction. J'aimerais lire maintenant, relire avec vous les versets qui suivent, chapitre 16. Qu'est-ce que ce Père céleste veut donner à ses enfants? Éphésiens chapitre 3, au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les chrétiens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le Père céleste veut donner à ses enfants quatre choses. Il veut donner la force, l'amour, la connaissance et la plénitude. Force, amour, connaissance et plénitude. Regardons-les rapidement. Versets 16 et 17. Dieu donne d'être puissamment fortifié, dit le texte. Et il y a là un parallèle entre l'homme intérieur ou l'être intérieur et le cœur. C'est ce que Paul dit ici à la fin du verset 16. Être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est un peu deux façons de dire la même chose. Avoir Christ, Jésus-Christ en soi, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Christ habite en nous par la foi. C'est-à-dire que Christ n'est pas littéralement, réellement, ici, dans mon corps. Jésus est physiquement au ciel. Mais par son Esprit et par la foi en Jésus-Christ, je m'approprie la présence de Jésus dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être intérieur. Et donc ici, Paul encourage les Éphésiens à saisir toujours mieux ou toujours plus la présence du Père céleste dans leur vie à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et le verbe que Paul utilise, le mot « habiter », n'est pas le mot qu'on utilise, par exemple, quand on reçoit quelqu'un de passage. C'est le mot qui parle de quelqu'un qui réside là, qui habite là, de façon permanente. Jésus n'est pas un locataire, mais le propriétaire. Et Paul prie le Père que par son esprit, les Éphésiens fassent à Jésus la place qui lui revient, celle du maître de maison, du propriétaire de leur vie. Et vous remarquez qu'on trouve ici dans ce verset et dans la pensée de Paul, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Premier point donc, Dieu donne à ses enfants d'être puissamment fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il leur donne d'être enracinés dans l'amour. Lorsque nous donnons à Jésus-Christ toute la place dans nos vies, il nous enracine dans l'amour, comme un arbre qui plonge ses racines profondément dans le sol. Et Paul dit aussi qu'il nous établit comme un édifice, comme un immeuble. Vous voyez au centre-ville du Blanc-Ménil, les immeubles qui poussent comme des champignons. Eh bien, ils ont dans le sol des fondations solides sur lesquelles ils reposent. Eh bien, Dieu veut aussi nous établir en tant que ses enfants dans l'amour pour que cet amour s'enracine et établisse solidement ses fondations en Jésus-Christ. Et c'est parce que Dieu habite en nous, par son esprit, que nous pouvons l'aimer. Être enraciné dans l'amour, c'est pas seulement pour être content, c'est aussi pour aimer Dieu et pour aimer les autres. Dieu nous donne donc d'être puissamment fortifiés et d'être enracinés et établis dans l'amour. Troisièmement, Dieu donne de connaître l'amour du Christ. Cet amour que Dieu met en nous a pour but, Paul dit, afin que, pour que, a pour but de nous rendre capables de comprendre. Comprendre quoi ? L'amour de Christ dans toutes ses dimensions. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Il y a donc ici un aspect intellectuel. Nous sommes appelés à comprendre. Et tout à l'heure, quand nous avons chanté « Je ne sais pourquoi dans sa grâce », ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas ce que nous chantons. D'accord ? Ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas ce que nous croyons. Mais bon, nous croyons, voilà. Il n'y a pas d'opposition entre foi et raison, à condition que notre raisonnement s'appuie sur ce que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu disent. Il nous faut aussi comprendre notre foi. Nous ne sommes pas appelés à une croyance naïve ou servile. Dieu veut nous donner à chacun cette capacité de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous par amour. Et notez que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre tout seul. Puisque Paul dit que c'est avec tous les saints, c'est-à-dire avec toute la communauté des chrétiens, que nous pouvons comprendre. Dieu n'est pas seulement mon Père, mais il est aussi notre Père. Un chrétien tout seul, un chrétien isolé, peut comprendre certains aspects de l'amour du Christ. Mais son expérience personnelle, c'est son expérience personnelle. Et s'il veut comprendre davantage la richesse de l'amour de Dieu, eh bien il s'enrichira aussi de ce que Dieu fait dans la vie de ses frères et sœurs. Et donc lorsque nous témoignons les uns aux autres, et parfois nous avons des témoignages dans nos cultes. Vendredi, lors de la réunion de prière, nous avons partagé en petits groupes certains sujets de prière plus personnels, et nous parlons aussi de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Eh bien, ces moments de partage et de témoignage sont des occasions d'approfondir la compréhension que nous avons de l'amour de Christ pour nous. Cela dit, notre compréhension, qu'elle soit individuelle ou communautaire, ne peut jamais saisir totalement l'immensité de cet amour. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit au verset 19 que cette connaissance surpasse toute connaissance, cette compréhension surpasse toute connaissance. L'amour du Christ, nous pouvons en saisir quelque chose personnellement et collectivement, mais nous ne pourrons jamais en faire le tour. Peut-être que si nous aurons l'éternité devant nous, ce sera aussi pour progresser dans notre compréhension de cet amour. Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés, d'être enracinés dans l'amour, de connaître l'amour du Christ et enfin d'être remplis de la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même lorsque nous sommes chrétiens, notre plénitude n'est pas encore complète et ne le sera qu'au retour de Jésus-Christ. Mais être rempli de la plénitude de Dieu, c'est ce vers quoi Paul nous invite à aller, à tendre. C'est notre objectif. C'est ce qu'il donne comme objectif aux chrétiens d'Éphèse. C'est ce que nous pouvons retenir comme objectif pour nous aujourd'hui. Dieu attend de notre part une progression quotidienne jusqu'à la plénitude finale. Et là, il y a encore tout un chemin devant nous. Nous sommes en tant que chrétiens à la fois remplis du Saint-Esprit parce que nous appartenons à Dieu, son Esprit est en nous, mais nous voyons dans notre marche quotidienne que nous avons besoin d'être renouvelés jour après jour. Cela ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu vient un jour et puis s'en va le lendemain en fonction de notre humeur ou de la sienne. Mais cela veut dire que nous dépendons de notre Père Céleste, que nous avons besoin de lui. Non pas que Dieu veut nous infantiliser ou nous garder comme des petits enfants, il veut nous voir progresser et grandir, mais nous avons besoin de sa présence pour nous aider à grandir. En résumé, notre Père Céleste veut nous donner force, amour, connaissance, plénitude par son Esprit. Et c'est aussi ce que Paul dit dans ce chapitre merveilleux de l'Épître aux Romains, chapitre 8, et au verset 14, je vous lis quelques versets. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » On retrouve Jésus, fils de notre Père Céleste, et qui est notre frère, et qui fonde notre fraternité chrétienne. Que retenir de ce deuxième point, avant de conclure avec les deux derniers versets ? Nous avons dit que Dieu veut habiter dans notre être intérieur, notre cœur, notre esprit. La question que je vous lance, c'est quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans votre vie ? Est-ce que Jésus est un SDF, un sans domicile fixe que vous hébergez à l'occasion ? Est-ce que Jésus est un locataire ? C'est-à-dire que c'est nous qui fixons les termes du bail et le tarif du loyer. C'est nous, le propriétaire. Ou bien est-ce que Jésus est, lui, le propriétaire des lieux ? SDF, locataire ou propriétaire ? Deuxième question, Est-ce que sa présence en nous nous transforme pour mieux aimer? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est là pour faire un peu de ménage de temps en temps? Est-ce que Jésus, qui habite dans nos vies, transforme réellement nos vies au point que nous nous mettons mieux à aimer Dieu notre Père et à aimer notre prochain? Quand est-ce que vous avez manifesté pour la dernière fois de l'amour à quelqu'un? Réfléchissez quelques instants à cette question. Quand est-ce que vous avez manifesté de l'amour à quelqu'un pour la dernière fois? Je ne parle pas seulement d'être poli avec quelqu'un, parce qu'on a des conventions sociales pour être en relation les uns avec les autres. Mais quand est-ce que vous vous êtes montré un prochain pour quelqu'un, vous êtes approché de quelqu'un pour lui dire ou lui faire du bien, sans attendre quelque chose en retour? Nous sommes appelés, je crois, non seulement à expérimenter, à vivre la présence de Jésus dans nos vies, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mieux la comprendre. Expérience et compréhension ne s'opposent pas nécessairement. Il n'y a pas de contradiction entre foi et intelligence. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai relu ces versets, j'ai un peu tremblé quand même. Un peu pris d'un vertige. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Waouh ! Comment comprendre, comment comprendre l'amour de Christ, comment en être même capable ? N'est-ce pas tout simplement impossible ? Heureusement, il y a les versets 20 et 21. Finissons avec ces versets. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu comme Père, qui veut et qui peut répondre à nos prières. Je disais en introduction qu'il y a souvent un lien entre l'utilisation du mot Père et un contexte de prière. Et bien là, nous voyons que nous nous adressons à Dieu dans la prière. Pourquoi ? Et pourquoi peut-on lui faire confiance ? Regardez ce que dit Paul. Dieu n'est pas inactif, mais Dieu agit. Paul dit, il peut faire. Donc Dieu fait, Dieu agit. Dieu peut faire ce que nous demandons. Cela veut dire que Dieu entend et que Dieu répond. Il peut faire ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire que Dieu connaît nos pensées et qu'il agit parfois plus loin que ce que nous formulons verbalement. Dieu peut faire tout ce que nous demandons ou pensons, parce que Dieu est tout-puissant, et parce que Dieu sait toutes choses. Dans Matthieu 6, que je citais tout à l'heure, Jésus dit lui-même que Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Et c'est aussi ce que dit David dans le psaume 139. « La parole n'était pas encore sur mes lèvres que toi, Seigneur, tu la connaissais entièrement. » Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire que Dieu a des projets qui sont bien plus grands que les nôtres, que ce que nous pouvons imaginer. Et d'ailleurs, Paul dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Notre Père céleste n'est pas avare, ce n'est pas Harpagon dans la pièce de Molière, l'avare. Ma cassette, pour ceux qui connaissent. Dieu n'est pas avare, mais Dieu veut donner abondamment ses grâces à ses enfants. Et comment fait-il cela? Eh bien, il le fait par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par son esprit. Voilà quelle est la puissance de Dieu qu'il veut nous donner encore aujourd'hui. Alors je vais simplement relire pour conclure cette prédication, ces versets 20 et 21. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen.